Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 916 d'Invino Sud Radio depuis la création de l'émission en 2004. Exceptionnellement, vous comprenez bien, on n'est pas en direct de Nicolas, à Place de la Madeleine, en public et délocalisé, mais confiné dans des beaux endroits, avec vraiment un grand plaisir de vous retrouver. Bonjour Philippe Aubrac.
Bonjour Alain Marty.
Alors Philippe, on rappelle, vous êtes meilleur sommelier du monde, président de la sommelier française et également propriétaire du restaurant à Paris, le Bistrot du Sommelier. Avant de parler de vin, c'est quand même le sujet de Invino Sud Radio, avec votre casquette de restaurateur, qu'est-ce qui se passe? Comment vivez ce business horrible? Est-ce que les récentes mesures annoncées par le gouvernement en faveur des restaurateurs, Philippe, vont dans le bon sens?
Elles vont dans le bon sens, toutes les mesures qui sont prises pour aider, que ce soit l'aménagement des loyers, par exemple, dont on a entendu parler récemment, que ce soit les distributions de prêts garantis par l'État, des frais de trésorerie, qui peuvent être un 25% du chiffre d'affaires de l'année 2019. Et c'est bien sûr, ce sont des très bonnes choses. Le plus important, ça a été, dans un premier temps, de mettre à l'abri les collaborateurs.
Oui. Vous avez combien? Une dizaine de collaborateurs, Philippe, hein?
Une dizaine de collaborateurs au distributeur de prêts, sont tous en chômage technique, en sécurité chez eux, donc c'est une bonne chose.
Oui.
Je suis en contact. Pas perdre le lien, même si le restaurant est fermé, même si c'est quitté, même malheureusement nul, et garder le lien avec tous les collaborateurs, donc les aider régulièrement, créer des groupes sur les réseaux pour pouvoir rester en contact. Ceux qui sont encore à l'école, les apprentis notamment, je suis avec eux aussi dans leur formation, et à ce sujet, d'ailleurs, de féliciter beaucoup de professeurs, beaucoup d'initiatives qui ont eu lieu sur les réseaux pour continuer à dispenser des cours. Et dans cette période de confinement, qui est même nécessaire et accessible, ça c'est la culture. Et en tant que culture, on apprend mieux aussi, on apprend mieux à apprendre, on va peut-être mieux appréhender aussi les choses.
Et la vie, et puis l'avenir, Philippe. Alors, vous êtes avec nous toute la journée hein, pour cette première émission. Demain également, on va se retrouver. C'est la semaine prochaine qu'on va retrouver notre ami et complice David Cobold, hein, en direct du Gers. Pour l'instant, il cultive les champs d'anglais. On embrasse David Cobold. Et je précise qu'on écoute Invino Sud Radio dans la capitale, sur 99.9. On va commencer par accueillir, à distance évidemment, un premier invité. Il est juste formidable, Jean-Claude Masse, propriétaire du domaine Paul Masse. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Alain, bonjour Philippe.
Alors vous avez quand même un confinement extraordinaire, quoi. Vous êtes dans une des plus belles régions du monde. Et d'abord, côté santé, côté personnel, est-ce que vous êtes affecté ou tout se passe bien pour l'instant?
Alors on peut dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de chance, on n'est pas du tout affecté. Et j'ai même ma mère qui a 90 ans que je garde à la maison et qui va bien. Donc je peux dire que côté santé, tout va bien.
Bon, alors, on va parler un peu de votre saga dans le monde du vin. On a l'occasion déjà d'organiser deux émissions délocalisées de Invino Sud Radio chez vous, au domaine Paul Masse. On en garde des souvenirs merveilleux. Vous êtes diplômé d'une école de commerce, un lycéenne à Nancy. Et puis, on vous a aperçu dans les années 1988, d'où le temps allait, du côté de Miami en Floride. Vous faisiez quoi à l'époque à Miami, Jean-Claude Masse?
J'avais le plaisir d'avoir été sélectionné au lieu de faire mon service militaire en tant que militaire propre. J'étais au poste d'expansion économique et donc je travaillais la promotion des produits français, tout ce qui est mode, gastronomie, vin, etc.
Donc tous les produits. Bon, c'était une belle aventure parce que quand on vend le luxe, l'art de vivre à la française, c'est plus facile que d'autres produits peut-être.
Ah oui, c'est un plaisir de le faire, c'est un plaisir, c'est une passion de le faire. Et après, il est évident que c'est une grande chance, voilà.
Une grande chance, quoi. Alors, Jean-Claude, racontez-nous, donc, l'aventure entrepreneuriale, ça débute il y a 20 ans, en 2000, voilà. Avec une petite affaire, qui n'est pas si mal d'ailleurs, familiale, 35 hectares, et ça a beaucoup évolué.
Voilà, donc on fête les 20 ans cette année, alors vous pouvez comprendre que...
Joyeux anniversaire.
Merci, mais vous pouvez comprendre qu'on est un peu handicapé par les invitations qu'on a lancées un peu à travers le monde.
En donc, petit comité, temps, vous le célébrez.
C'était prévu quand?
Comment?
C'était prévu quand?
C'était prévu, alors il y avait des événements qui devaient être là à la fin avril, donc avec un événement plutôt axé presse, un événement fin juin axé plutôt clients internationaux, un événement juste avant les vendanges plutôt axé local, et après en fin d'année ça aurait été quelque chose autour du restaurant avec tout ce qui est œnotourisme, gastronomie, axé clients locaux et aussi internationaux. Donc il y avait quatre étapes. J'espère au moins en réaliser deux.
La bonne nouvelle, c'est que vous faites des économies sur les deux premières, mon cher Jean-Claude.
Voilà, je fais des économies et ça permet de se creuser la tête, de faire d'autres choses. Super. Ah, on peut pas le voir à l'antenne, c'est vrai.
Attention,
J'ai sorti une super brochure.
Ah, voilà, très bien. Ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Oui.
Voilà. Et c'est en 2000, quand je me suis lancé, j'imagine pas qu'on en serait là aujourd'hui. Hein. Démarré avec 35 hectares qui étaient à restructurer. Aujourd'hui, on a 15 domaines. On fait un vrai métier de vigneron et en cette période difficile, disons qu'on touche du doigt vraiment ce que sont ces métiers. Vous savez, quand je dis un vigneron, c'est quelqu'un qui sait cultiver la terre, qui sait faire le vin, l'élever et l'assembler, le mettre en bouteille et le marketer. Donc, dans cette période inédite et troublée, on voit bien que l'impact des mesures qui ont été prises est très différent sur chacun des métiers. Très différent.
Oui, directement. Quoi.
Alors aujourd'hui, on est proche de la terre, vous savez quoi ? Moi, j'en ai.
Oui. Parce que... malheureusement.
Et ouais. Et parce que la récolte, il faut la faire venir. Et là, on travaille sur la récolte à venir avec notre trésorerie, avec ce qu'on a économisé pour arriver à une récolte 2020.
Et à continuer, quoi. Alors, il paraît que vous avez lancé il y a quelques années une marque étonnante avec une grenouille qui était un peu arrogante et qui portait un béret. C'était quoi ça exactement, Jean-Claude ?
Voilà, c'est lancé en 2005, c'est Arrogant Frog. Alors, je suis parti d'une constatation que dans le métier du vin en France, on disait, c'était plutôt le producteur qui disait au consommateur ce qu'il devait aimer. Aimer ou ne pas aimer. Alors que dans le reste du monde, dans le nouveau monde, c'était plutôt le consommateur qui dictait comment et réfléchir dans les assemblages, dans les terroirs, dans les styles de vin pour qu'il plaise à ces nouveaux consommateurs. Et donc je me suis dit, en France, il y a une certaine arrogance qui a été confirmée lors d'un sondage du conflit entre Chirac et Bush sur la guerre en Irak, où 80% des Américains considéraient les Français comme arrogants. J'ai dit, oui, on est arrogants, mais on a certaines...
On assume.
On a des raisons de l'être, mais il faut les faire partager probablement de manière plus humble. Alors, The Humble Winemaker, le vigneron humble, a créé Arrogant Frog.
Excellent ça. Aujourd'hui, racontez-nous, vous n'avez jamais eu envie d'investir dans d'autres terroirs. Vous êtes enraciné au sens noble du terme dans le Languedoc, ce beau sud de la France. Il y a d'autres belles régions en France. Il y a d'autres terroirs également. Vos confrères parfois investissent hors de nos frontières. Vous n'avez jamais souhaité aller un peu plus loin ?
Et j'en suis très fier de ne pas être allé plus loin. J'en suis très fier parce qu'aujourd'hui, le mot mondialisation, globalisation, et même, je dirais, aller hors de mes régions, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on s'aperçoit. Il faut peut-être penser plus à ce qu'on a et éviter d'essayer de couvrir le monde et découvrir ce qu'il y a de très beau et de très bon autour de soi. Et plus que jamais, je suis convaincu que je ne produirai que des vins du Languedoc-Roussillon.
Bon, très bien ça. C'est-à-dire que la région est quand même juste magnifique. Quoi. Quand on fait le Languedoc-Roussillon, voilà, vous avez tout là-bas, non ? Il fait beau en ce moment ou pas ?
Ah, il fait extraordinaire.
Racontez-nous, là, au total, vous avez 850 hectares, donc c'est énorme, Jean-Claude Mast. Est-ce que vous produisez uniquement des cépages autochtones, donc originaires de ce beau sud de la France, ou au contraire, vous êtes essayé à des choses plus originales ?
Alors, on a 45 cépages. La chance du Languedoc, c'est pas une région monolithique. Il y a des microclimats, il y a des altitudes, il y a des vents, des expositions, etc., qui sont très différentes de quelques centaines de mètres.
Donc, à partir de là, lorsqu'on commence à connaître le Languedoc, et ce que je dis, j'ai passé 20 ans à le découvrir, et maintenant je vais vraiment le révéler. 20 ans de découverte pour 20 ans à venir à révéler. Il y a des choses extraordinaires. Il faut savoir qu'un Vermentino produit là juste à côté sur les terres marno-calcaires.
Vermentino qui est un cépage originaire d'Italie.
Oui, originaire d'Italie, mais très, très présent ici. Hein. On le cultive depuis toujours. Le rôle, hein, l'ex-rôle.
Tout à fait.
On peut avoir des résultats extraordinaires.
Et directement. Alors, racontez-nous un peu le bio, la biodynamie. On en parlera tout à l'heure avec notre prochain invité, Lionel Lavaille. Vous, c'est pareil, c'est dans la génétique de l'entreprise.
Voilà, donc tout est bio aujourd'hui. Et on est arrivé à la conclusion avec mon chef de culture que tous les plantiers, on avait cultivé avec le cheval, parce qu'on les fait à la main. Et on réinvente un peu, c'est une révolution, vous savez, au sens d'une roue qui tourne, et c'est une révolution. On travaille dans les vignes pour être en bio. On travaille des tracteurs très sophistiqués qui permettent de décarayonner, qui permettent de traiter de manière très précise. Avec eux, aujourd'hui, on a banni toute la chimie et on arrive à travailler avec des molécules. Au-delà, vous savez, il y a la chimie organique et la chimie synthétique. Moi, je suis contre la chimie synthétique, mais je suis aussi contre la chimie trop organique. Donc, on arrive à travailler de manière plus intelligente grâce à la technologie. Et ça, s'applique aujourd'hui dans les 850 hectares, même dans des endroits où c'est assez compliqué. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a des endroits où c'est assez compliqué de travailler naturellement.
Dites-nous, Jean-Claude, au niveau du business aujourd'hui, ça doit être très calme, non?
Alors, on a la chance d'avoir un beau portefeuille de commandes qui est un peu handicapé par les départs, qui est handicapé par les garanties de paiement. En revanche, on a vu des pays qui s'étaient écroulés les trois premiers mois, comme la Chine. La Chine repart, on a un beau portefeuille de commandes sur la Chine. Le Japon a tenu le choc, là, il devient un peu plus timide à cause de l'annulation des Jeux Olympiques. Les pays comme l'Angleterre, c'est là où on reconnaît l'anglais et sa capacité
résilience
incroyable dans l'adversité. Les rayons des supermarchés sont vides. Et ce que j'ai constaté au début des années 2000, quand je me suis lancé, le Japon était en pleine récession, en pleine crise. Et vous savez quoi? On a explosé au Japon. Le Languedoc fait des vins, comme disait un anglais, un ami anglais un jour, il me disait, tes vins sont crisis proof. C'est-à-dire que on a un peu la réputation, surtout au domaine de Paul Mas, d'être devenu un peu le pape du vin plaisir. Parce que le vin, c'est pas du plaisir, Philippe.
Bien entendu.
Et cette catégorie vin plaisir, ça me fait sourire. Et c'est là où je suis arrivé à la conclusion, comme vous le savez, vin plaisir, vin de rêve. Et non pas vin pas cher et vin cher, ou grand vin et petit vin. Non, il y a les vins plaisir et les vins de rêve. Et nous, on est vraiment dans ce vin plaisir. Et vous savez quoi, dans ces périodes, les gens, ils veulent se faire plaisir de manière simple. C'est ce que j'ai appelé le luxe rural. Donc, il va acheter une bouteille de nos vins qui a des prix tout à fait raisonnables.
Jean-Claude, pour terminer, Sud Radio, c'est Parlons Vrai. On aime les vignerons, on les soutient. Votre dernier coup de cœur côté vin, la dernière bouteille que vous avez bu, c'est laquelle?
Ah, la dernière bouteille que j'ai bu, j'y reste toujours, mais chaque fois, elle me surprend. C'était le Grange australien de Penfolds, 1999. C'était assez extraordinaire.
Très, très grand vin.
Alors, le tourisme, vous êtes quand même confiant pour cette année, là, les juillet-août?
Ah, il faut que le soleil tue ce virus, hein. Il faut y aller, là. Hein.
Il va y arriver.
Vite et que tout le monde revienne avec le sourire et fasse la fête, hein. Il y a urgence. Sinon,
bon, si on a pas
de Covid, on mourra d'ennui et de sinistrose.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Vous allez rester avec nous pour écouter l'émission. Vous aussi, Philippe Orbach. Petite pause, et après on retrouve le magicien du Roussillon, Lionel Lavaille, pour nous parler de Domaine Caz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Invino Sud Radio, le retour, hein, vous le savez, nous sommes la seule radio en France à soutenir chaque semaine le monde du vin, un monde merveilleux qui emploie, je le rappelle, 500 000 collaborateurs au total. À mes côtés, toujours Philippe Orbach, Jean-Claude Mas, qu'on a accueilli tout à l'heure, et puis un nouvel invité, Lionel Lavaille, le directeur de la maison Caz. Bonjour Lionel.
Bonjour tout le monde.
Vous avez un magnifique compliment pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Hein. C'est très beau. C'est chez vous ou pas ça?
Alors, c'est une partie du domaine où j'habite qui a été réaménagée en chambre d'hôte il y a 4-5 ans. Et en ce moment, ça résonne pas mal puisque c'est vide, évidemment. Donc, je me sers de mes chambres d'hôte pour être au calme et vous parler.
Sereinement, quoi.
Voilà.
Bon, vous, de votre côté, pas de problème par rapport au Covid, par rapport aux maladies, au virus, là, à titre personnel, pour tous ceux que vous aimez?
Non, c'est gentil, tout va bien. On a été très rapidement, on a mis en mesure toutes les mesures sanitaires que le gouvernement…
Les gestes barrières imposés.
Les gestes barrières, oui. Les gestes barrières, vous avez dit?
Oui, les gestes barrières, c'est-à-dire que, bon, évidemment, l'activité actuellement, elle se focalise surtout dans le vignoble. Donc, quand on est planté à 2,50, les rangées, mécaniquement, ça crée un espace entre chaque personne. Par contre, durant les transports, les gens, on a des masques, on a des gants, on a du gel, et on fait très attention.
Pour les mesures, quoi. Bon, il faut dire aussi que dans votre beau pays, là, avec les ciments enneigés des Pyrénées, le bleu de la Méditerranée, vous avez un outil génial antivirus, c'est la Tramontane.
J'allais dire,
on a un virus. Récite à la tramontane, mon cher Lionel, il faut qu'il se lève de matin très tôt, non?
La tramontane, elle nous aide beaucoup en biodynamie pour nos méthodes culturales et elle nous aide certainement pour le Covid-19. Elle nous a pas fait descendre le virus, bon. En tout cas, on le veut pas.
Philippe Forbin, qu'est-ce que c'est que la biodynamie là? Parce qu'il a l'air savant, Lionel. Ça veut dire quoi, ça, biodynamie?
Oui, on en a parlé avec Jean-Claude Masse aussi tout à l'heure. C'est une, oui. C'est une démarche qui consiste à retrouver un certain équilibre finalement, ou apporter un certain équilibre au niveau de la vigne déjà, et de travailler dans un certain état d'esprit, d'abord avec des produits bio, effectivement, ça c'est la base même, et ensuite à préparer soi-même, faire un certain nombre de préparats que l'on peut donc faire sous forme d'infusion, décoction, etc. On a des potions qui sont des fois considérées un peu comme magiques, mais elles ont un effet complètement magique. On appelle des 500, des 501, des 502, des 503, etc., qui consistent à des mélanges savants ou à des préparations qu'on peut même anticiper, parce qu'on en enterre certaines, dans, par exemple, du fumier, dans des cornes de bœuf à certaines périodes de l'année, tout ça, pour les utiliser ensuite pour, par exemple, comme engrais. Et aussi de la valériane, mais aussi des herbes, mais aussi des plantes, mais aussi des écorces, mais aussi de la silice, etc.
Les produits simples.
Oui, et tout ça dans des doses microscopiques, calculées d'une façon extrêmement précise également, et à certains moments aussi particuliers, à la fois de période et de journée, pour pouvoir effectivement lutter contre certains, et en anticipant le plus possible. Il y a beaucoup d'observations dans la biodynamie. On est beaucoup plus proche du sol, beaucoup plus proche de sa plante, finalement beaucoup plus proche de la nature et de l'essentiel même des choses, pour pouvoir accompagner.
La semaine prochaine, pour avoir son son de cloche sur la biodynamie également, qu'on connaît.
Et on travaille beaucoup, bien sûr, avec les astres, et notamment l'astre le plus important, qui est la Lune, même si le Soleil, bien entendu, permet aussi de réagir, de donner un écho à la Lune.
Oui. Lionel Lavaille, un petit mot sur cette maison case avec une origine certaine, 1895, racontez-nous.
Oui, c'est une entreprise familiale que j'ai reprise moi il y a 16 ans. Bernard Case avait déjà commencé la biodynamie. Moi, je suis issu d'une famille de vignerons, je suis la 7e génération dans ma
Bravo. Famille. Il faut soutenir les vignerons, hein, consommation modérée et responsable, mais un verre par jour pour soutenir les vignerons de France.
Bon, en ce moment, franchement, on peut même aller au-delà d'un verre si on a...
Attention Lionel, un verre. Alors, continuons l'historique de la maison Case. Vous avez droit à un siècle en 7 secondes.
C'était une maison emblématique et leader des vins du Roussillon, avec évidemment une part prépondérante des vins doux naturels, parce que le Roussillon est une terre de vins doux naturels et le reste... Et
alors justement, parlons-en Lionel, parce que je suis passé chez vous là au Clos des Polis il y a quelques mois, là, c'était en hiver, et je pense que vous avez un personnel qui est défaillant, parce qu'il y avait des bonbonnes dehors, c'est très froid, et je suis repassé pendant l'été, il y avait les mêmes bonbonnes qui étaient en plein soleil là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vraiment des problèmes de personnel dans le Roussillon?
Alors non, on n'a pas de problème de personnel.
Enfin,
on peut en avoir parce que quand il faut aller travailler dans les vignes, en vignoble de montagne, on a.
Oui, ça peut ponctuer.
Là, franchement, on a un personnel extraordinaire parce que c'est dur.
Ouais. Contre, donc c'est normal que le bagnoule soit dehors. Alors c'est normal.
Les bonbons, on les a pas oubliés. On les a volontairement mises dehors pour qu'elles soient choquées par le chaud, par le froid. Et en fait, ça fait partie du cycle d'élevage de nos bagnoules traditionnels. Donc ça, c'est un type d'élevage sur un type de vin doux naturel que compte le Roussillon. Après les Maurilles, les Muscats de Rivesaltes et Rivesaltes, à Banyuls évidemment, à Port-Vendres pour le Clos de Polille, nous produisons du Banyuls.
Du Banyuls, quoi. Les cépages utilisés, on avait tout à l'heure une diversité, 45 cépages pour Jean-Claude Masse. Vous, de votre côté, vous êtes cantonné donc aux cépages autochtones, on va dire.
Ouais, nous, on en a beaucoup moins et on cherche pas à en avoir beaucoup parce qu'en fait, les seuls cépages que je plante aujourd'hui sont du Carignan et du Grenache. C'est les cépages... Alors, j'ai un peu de Vermentino à Collioure parce que nos Collioure blancs avec un peu de Vermentino, ils sont magiques.
C'est excellent.
Pas mal.
Par contre, on plante du Grenache et en particulier du Grenache gris pour faire des grands vins blancs parce que Collioure est un terroir magnifique pour les blancs. Mais dans la vallée de la Glie, à Rivesaltes aussi, on plante du Grenache et le Grenache, il se comporte super bien chez nous.
On a des total, combien d'hectares vous avez, Lionel, au sein du domaine Case?
Alors, j'ai 200 hectares à Rivesaltes et 85 à Collioure.
Oui, 85 à Collioure. Alors, vous nous parliez de ces magnifiques chambres d'hôtes. Vous avez aussi des restaurants prêts à accueillir les milliards de touristes qui vont se précipiter à partir de la fin du confinement.
Voilà, on a deux restaurants. Un qui est saisonnier sur la plage à Polille. On ne sait pas trop si on va l'ouvrir, hein, très sincèrement. Et puis celui de Rivesaltes qui est ouvert à l'année, ben pour l'instant, tout le monde est au chômage. Il est fermé évidemment depuis le vendredi où l'annonce a été faite par le président. Et toute l'activité œnotouristique est en sommeil. Et chez nous, dans une région touristique qui accueille entre 7 et 8 millions de touristes dans le Roussillon, si on passe à côté de la saison, eh ben ça va piquer, hein, ça va piquer les.
Et ça va être très chaud, quoi. C'est vrai que tout à l'heure on voyait que Philippe, il nous parlait des gilets jaunes dans son restaurant et avec toutes les problématiques.
Quel métier. Je comprends pas qu'on aide pas plus, parce que ce sont des vrais ambassadeurs, les restaurateurs de la gastronomie française. On fait rêver le monde entier par notre cuisine, par nos vins. Ce sont des ambassadeurs. Et aujourd'hui, je pense que pour être restaurateur, je le suis à petite échelle.
Oui.
C'est vraiment très, très difficile.
Ah, mais c'est la démotion, hein. Jean-Claude Masse, vous avez également côté Masse, vous confirmez que c'est la
démotion. C'est tu
en tout week-end pascal, c'est très bien, ça.
Ouais, c'est tu l'art de vivre à la française, de fermer les restaurants. Donc, il ne faudra pas que ça dure, parce qu'on est en train de se tuer nous-mêmes, là.
On renie. C'est vraiment très chaud. Petite parenthèse sur les bagnoles, Philippe Forbach. Donc, ce week-end, il y a les œufs de Pâques, hein. Est-ce que le mariage bagnoles et chocolat est un mariage divinement heureux, si je puis dire?
Oui, et en posant la question, vous connaissez la réponse, mon cher Alain. Vous qui êtes très amateur de ces vins-là et de cette région-là. C'est vrai que les vins doux naturels, d'une façon générale, et les bagnoles en particulier, sont des merveilleux accompagnants pour les œufs, pour le chocolat en général.
Les œufs, j'allais penser.
En particulier, voilà. Donc, et surtout les œufs au chocolat noir, pour la plupart du temps, qui ont beaucoup plus de caractère, parce que les vins de bagnoles ont aussi beaucoup de caractère.
Alors ça, ça se discute sur les chocolats. On a quelques œufs
dans l'entourage. Sur le chocolat au lait, éventuellement, le côté rancio va plutôt pas mal.
Fonctionne bien. Jean-Claude Matt, vous aimez le chocolat ou pas?
J'adore le chocolat. Le chocolat, de café et de vin. Et je disais, il y a le Rivesaltes. Va bien aussi, hein.
Bien entendu. Lionel Lavaille, vous confirmez?
Je suis catalan aussi, hein. Je suis un peu catalan.
Comme me disait Dali, j'adore les chocolats.
C'est pas la marque. Votre meilleur souvenir, Lionel, de dégustation familiale ou pas?
Il disait, je suis fou des chocolats, pardon.
Ouais. Il ajoute une certaine marque. Ouais, voilà. Votre meilleur souvenir dégustation d'un bagnoul, c'était quoi, Lionel Lavaille, du tout?
Alors là, j'en ai bu hier soir et je suis obligé de vous en parler. Hier soir, j'ai ouvert une bouteille parce que c'était le vendredi saint. Normalement, on fait la procession en plus le vendredi saint à Perpignan. Alors j'étais triste et je voulais fêter, me redonner du baume au cœur. J'ai ouvert un Rivesaltes Emécase 78. C'est pas un bagnoul, c'est un Rivesaltes. Mais qu'est-ce que c'est bon!
Oui, c'est bon ça. Et ça, Philippe Forbach, vous confirmez, ça, on peut l'attendre entre 3 et 4 siècles.
Oui. Hein. 3 et 4 siècles, j'espère que vous le boirez avant. Ça serait dommage.
On compte se congeler bientôt, là, oui. Voilà,
exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les vins doux naturels, Rivesaltes, Bagnoles, Mory, notamment pour cette région-là, sont des vins qui se gardent très, très bien. La concentration en sucre et en alcool, notamment, permet la garde. Et en plus, ils craignent pas spécialement l'oxydation. On l'a vu à travers les process d'élevage.
Le catalan est rustique, hein, c'est bien ça.
Voilà, il y a de la force et du caractère. Et avec le temps, ouais. Au contraire, on gagne en complexité, on gagne en élégance. Il y a plein vraiment de jolies vertus avec le temps. Et d'ailleurs, on peut retrouver dans sa cave aujourd'hui, des fois, profiter du confinement
pour descendre dans
votre cave. Mais oui, et puis retrouver des fois des vieilles bouteilles qu'on n'a pas le temps parce qu'on va toujours à l'essentiel, on est toujours un peu pressé par le temps. Aujourd'hui, là, on a le temps. Ben voilà, capitaliser sur le temps que vous avez de disponible en ce moment. Et moi, je suis descendu dans ma cave, j'ai retrouvé des millésimes anciens, des choses que je m'imaginais.
Vous avez combien de bouteilles dans votre cave, Philippe? Parce que après, on va donner votre code secret pour y accéder, mais vous avez combien de bouteilles avant, là?
Je sais pas, un millier.
Quelques milliers. Et Lionel, pour terminer, au niveau business, on a vu avec Jean-Claude nous a indiqué que la Chine redémarrait, des premières commandes, 300 000 euros. Vous vendez en direct aux professionnels, vous souffrez également, comme beaucoup de vignerons de France, qu'il faut soutenir.
Oui, alors nous, l'activité, elle est au plus bas. On est vraiment focalisé sur la récolte. Donc, on est dans les vignes. On a même mis les gens du bureau. Les commerciaux sont dans les vignes. Alors, je peux vous dire qu'on dit des fois qu'en bio, on a un peu d'herbe. Si à ce rythme-là, dans quelques semaines, ça va être des golfs, nos vignes. La récolte 2020, elle va être magnifique.
Bon. Merci beaucoup. Merci également à vous, Jean-Claude Masse et Lionel Lavaille. On vous souhaite le meilleur pour maintenant et pour les prochains jours à venir. On se retrouve demain à 12h30 avec Philippe Forbach. Vous l'avez compris, on ne sera pas chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine, mais dans nos maisons respectives. On parlera du domaine du Seigneur dans la vallée du Rhône et de la maison Amélie Bichot en Bourgogne. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles sur la radio. Restez fidèles et soutenez tous les vignerons en France. Et bien sûr, respectez la plus grande démodération.
Sud Radio Invino.